La privatisation de l'électricité, c'est 15% de plus sur votre facture. La privatisation de l'électricité, c'est 15% de plus sur votre facture. La privatisation de l'électricité, c'est 15% de plus sur votre facture. La privatisation de l'électricité, c'est 15% de plus sur votre facture. Et ce n'est qu'un début. On ne répétera jamais assez les informations les plus importantes. Gouvernement libéral, les profits pour le privé, les pots cassés pour le contribuable. C'était un message du ministère de l'économie à court terme et de la réduction des services publics.
Il me semble avoir entendu dire que Jean-Pierre Gaillard se retirerait. Nous confirmes-tu cet événement? Car s'il se révèle exact, je n'ose imaginer à l'heure le grand vide, l'abéance, enfin le véritable néant que ça va nous laisser dans le paysage médiatique.
Ouais Daniel, Patrick là, ouais il est 7h30, je viens d'entendre Jean-Pierre Gaillard qui nous parlait d'EDF, là, de l'ouverture du capital, et qui nous disait que l'apparition de nouveaux petits arrivants sur le marché, hein, des opérateurs un petit peu comme en téléphonie, hein, les Bouygues, les SFR et compagnie, allaient améliorer les qualités de service. Ah, génial, il faudrait qu'il nous explique, monsieur Jean-Pierre Gaillard, s'il connaît beaucoup de boîtes où ce sont les retraités qui vont bosser avec les agents engagés, normaux, les employés, lorsqu'il y a des coupures de courant et que les lignes sont coupées, et qui vont, qui ressortent leur casque et leur bleu de travail, et qui vont aider les agents EDF à réparer et à remettre ces lignes en tension. Faudra qu'il m'explique si sur les marchés privés, dans les petites boîtes néolibérales, on en connaît beaucoup des comme ça. Voilà, salut, merci.
Salut, c'est Sophie en Bretagne. Voilà, j'appelle au sujet de l'émission sur l'Italie des années 70. Alors, je suis bien contente de cette série d'émissions parce que j'ai vu récemment un film magnifique qui s'appelle Buongiorno Notte. Et je suis trop jeune pour savoir de quoi il s'agit et totalement ignare aussi sur l'histoire de l'Italie des années 70. Alors, mais justement, j'avais besoin de me documenter pour comprendre un peu mieux tout ça. Alors, merci quoi, et puis bonne continuation à toute l'équipe. Salut.
Le but de cette déstabilisation italienne par les Brigades Rouges et le Lotta Continua, enfin d'autres, c'était d'empêcher que le Parti communiste et la démocratie chrétienne dirigent l'Italie démocratiquement. C'était tout simple. Et les États-Unis ont, à cette période, agi pour empêcher que ça se fasse. Au prix d'un assassinat d'un homme politique de première grandeur, que c'était Aldo Moro ou un autre. Donc voilà, c'est ça qu'il faut tirer comme conclusion de ces années de plomb. Salut, c'était Jean-Pierre.
Un bouquin, Killing Hope, de William Bloom, le tueur d'espoir, qui détaille les interventions de la CIA et de l'armée américaine depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on y apprend au détour d'une page que, effectivement, le kidnapping, l'assassinat de Moro, les actions des Brigades Rouges pendant les années 70 étaient bien manipulées par la CIA. Ça n'était pas seulement le cas en Italie, c'était le cas aussi dans toute l'Europe depuis le 1949 et la mise en route de l'opération Gladio. L'opération Glaive, qui avait pour but de contrer et de préparer des groupes armés dans l'hypothèse d'une probable, très probable à l'époque bien sûr, invasion de l'Europe par le bloc communiste. Ça n'a pas eu lieu bien sûr et l'opération s'est transformée en mouvement d'affaiblissement dans l'opinion des groupes politiques de gauche. Voilà, vive la démocratie. Salut Daniel.
Et ben voilà, c'est notre sujet du jour. Gladio, les services secrets italiens, les services américains, la CIA, la loge P2, c'est la dernière étape de notre parcours dans les années 70 en Italie, les années dites de plomb. On est passé par là, on a commencé par la Piazza Fontana à Milan et puis Bologne en 1977 et puis effectivement l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro en 1978 à Rome, et puis là, l'attentat de la gare de Bologne en 1980, le 2 août 1980, c'est notre sujet. Aujourd'hui, c'est dans cette gare que nous nous rendons avec l'ami Francesco. Auparavant, autre message sur le répondeur de la Bassi, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Au sujet de la semaine sur l'Italie, je suis comme ce monsieur très satisfaite. Parce que ce petit... D'abord, entendre... J'ai entendu plutôt avec régal cette magnifique langue musicale avec ses expressions et ses tournures spécifiques et aussi son humour. Ce peuple est fascinant, innovant dans les idées, les comportements. C'est le pays des miracles. Bonsoir.
L'unica cosa che mi ha molto toccata al cuore quando si andava alla medicina legale, che c'erano gli autobus che andavano su e giù, facevano la stazione via Ernerio, medicina legale.
Donc tous les corps et les morceaux de corps ont été chargés sur le bus parce qu'il fallait pas remplir l'ambulance avec les morts.
Con tutti gli autobus, con tutte le lenzuola, facevano. Questa è una gamba, questo è un braccio, questa è una testa.
Et les bus faisaient donc les allers-retours d'ici à la morgue, qui est pas loin, via Ernerio. Et donc il y avait tout un cortège de bus rempli de draps. Et dans les draps, il y avait des morceaux. Il n'y avait pas souvent des corps entiers. Et quand ils ouvraient les draps, donc ils sortaient. Ça, c'est une jambe, ça, c'est un bras, ça, c'est une tête. Pour essayer de reconstituer les corps, parce qu'il y avait plus de morceaux de corps que de corps entiers.
Qui est Radio Alice?
Salut, c'est Daniel Mermet avec Francesco Giorgini, là-bas si j'y suis, 2 août 1980, Bologne.
Flight number 2.
Io lavoro qui dentro.
Je travaille ici.
Facevo la mattina.
C'était mon tour du matin.
A un certo punto c'era tanta gente.
A un certain moment, il y avait beaucoup de monde.
Un caldo da morire.
Un chaleur épouvantable.
È arrivato il treno.
Il y a le train qui arrive.
Gente che andava, correva, scendeva così.
Des gens qui montaient, qui couraient, qui montaient pour sur le train, qui descendaient.
A un certo punto si è sentito boom, fumo, nebbia. Io qua, la mia porta si era bloccata, non riuscivo a andare. Questo banco ha fatto così. Tutti i vetri a me addosso.
Et moi j'étais donc là, je faisais ma matinée, il faisait un chaleur épouvantable. À un certain moment, on a entendu cette énorme explosion, cette boom énorme. Et ma porte là, pour sortir, était complètement bloquée par les gravats. Ce comptoir, il s'est effondré. Tous les vitres ici du comptoir, ils sont tombés dessus et j'étais blessé. Et il y avait une fumée noire absolument inimaginable.
Esatto. Poi dopo, questo banco qui mi ha fatto scivolare. Io sono volata via con lo spostamento dell'aria e mi ha fatto andare fuori. Io quando ho pestato dei cadaveri, io sono scappata perché avevo paura. C'era uno che mi veniva dietro tutto tagliato con la testa là.
L'effondrement e le soufflement d'air a donc fait tomber les carreaux, a fait et s'effondrer le comptoir, et moi je me suis retrouvé dehors. Et dès que je me suis levé, j'ai commencé à marcher, et il y avait des blessés et des cadavres autour de moi, et moi ça m'a fait trop peur, et je me suis enfui. Et il y avait un monsieur avec tout le cou coupé et tout le visage coupé par des vitres qui me poursuivait pour me dire aidez-moi, aidez-moi.
Ça fait 24 ans que Rosa, la vendeuse de la buvette du quai numéro 1 de la gare de Bologne, raconte cette histoire, raconte ces images épouvantables. On a oublié, hein, sans doute, pour les voyageurs qui passent par Bologne, ce qui s'est passé là. Même si il y a un mur entre le quai numéro 1 et la salle d'attente qui est bizarrement ouvert comme ça sur le quai. une sorte de brèche avec une forme imprécise. C'est la marque et c'est la trace et c'est le souvenir de ce qui s'est passé là, donc le 2 août 1980, cette bombe qui a explosé dans cette gare et qui finit ces années de plomb, qui les finit en noir. C'est un rideau noir qui tombe sur cette décennie, tout comme c'était un rideau noir qui l'avait ouverte, celui du terrorisme noir. Piazza Fontana, en 1969, un attentat aveugle contre des populations n'importe qui, attribué à des mouvements d'extrême droite, et puis avec compromission des services de l'État jusqu'à un niveau élevé, puis derrière, qui a manipulé, et à l'autre bout, 1980, à nouveau, une histoire sombre, terrible, avec de l'opacité, avec de la corruption, avec des manipulations. Et aujourd'hui, cette histoire est à peu près écrite, celle-ci, mais il reste quand même pas mal de zones d'ombre. Alors voilà, on commence avec Paolo Bolognesi, qui est le représentant de l'association des victimes de la gare de Bologne, et qui situe l'histoire très clairement.
Ah, 2 août 1980, vittime del terrorismo fascista. Il y a l'âge des victimes, ça va de 6 ans, 8 ans, 7 ans, 3 ans. Jusqu'à 86 ans,
au dessous des 40 ans.
La plupart, ils ont moins de 40 ans.
Si per caso, c'est anche io in tutte le vacanze, arrivo anche sui 20, 21, 23, figli di
roba. Et il nous dit de regarder là, tous ces gens de 20 ans qui partaient en vacances, parce que c'était en plein départ pour les vacances, c'était les 2 août, donc c'était vraiment, en plus Bologne c'est un croisement où les gens qui vont en vacances de Milan vers la mer par exemple, ils passent par ici, aussi bien les gens qui vont du sud de l'Italie vers le nord, ils passent par ici, donc c'était vraiment un grand croisement, et c'était un jour de grand départ.
Il 2 agosto era il momento, era sabato, no?
C'était un samedi.
Ed è il momento in cui il giorno prima avevano chiuso tutte le fabbriche.
Le giorno avant, on avait fermé, c'était la fermeture des usines, c'était le 1er août, le vendredi.
E allora c'era proprio la fuga verso le vacanze.
Donc, vraiment la vague vers les grandes vacances, et notamment la vague des ouvriers.
Sì, perché qui in agosto è vacanza totale, qui in Italia.
Ah, in août, on ferme tout en Italie, du 1er août jusqu'au 27 août. Et donc, c'était vraiment le départ. Des ouvriers, quoi.
C'était intentionnel de choisir ce jour-là de départ en vacances.
Esatto. Perché era cioè il massimo del danno possibile, con il massimo della paura possibile, in quel giorno in cui questa stazione, che è sempre frequentatissima, quel giorno era un uovo, era completamente nuovo.
Le maximum de dommages possibles, avec le maximum de terreur possible dans cette gare qui est tous les jours est très, très fréquenté, mais ce jour-là, il était plein comme un œuf.
Le mot fort, là, c'est fasciste. Victime de la terreur fasciste.
Sì. Questa è una strage fasciste comprovata anche dagli atti giudiziari.
Ça, c'est un massacre fasciste et ça a été prouvé par les actes judiciaires.
Ma è proprio l'ideologia fascista, almeno nell'ambito dei fascisti italiani, nei loro
studi. Ça découle de l'ideologia dei fascisti italiani dell'epoca, qui parlait de purification de l'Italie par les massacres.
Vous étiez où, vous?
Io venivo col treno, perché
moi j'arrivais avec le train.
Qui a Bologna c'era mio suocero, mia suocera, mio figlio e mia madre.
Ici qui m'attendait, il y avait mon beau-père, ma belle-mère, mon fils e ma mère. M'attendait ici alla gare.
Mia suocera è morta e gli altri tre sono rimasti feriti gravissimamente.
Ma belle-mère è morta e les autres trois sont restés très très gravement blessés.
Alors on est dans cette salle d'attente devant ce panneau avec le nom des victimes et cette expression terreur fasciste. Alors que si on évoque les années 70 en Italie, c'est d'abord les brigades rouges dont nous avons longuement parlé qui viennent à la mémoire. Or ces années ont été marquées profondément par cette terreur noire, par ce terrorisme noir, ce terrorisme fasciste qui a sévi. Alors la première piste a été justement celle de groupuscules, Paolo Bolognesi.
Ci sono state una serie di rivendicazioni.
Il y a eu une série de rivendications.
Ma sono iniziate immediatamente le indagini, diciamo dal giorno dopo, immediatamente, anche perché questo avvenimento è stato.
Les enquêtes ont commencé dès le lendemain. Il faut savoir que ces enquêtes ont été polluées, ont été manipulées, ont été détournées d'une façon absolument effrayante.
Et qui a revendiqué, je voudrais savoir, est-ce que l'attentat a été revendiqué d'abord?
Sono state rivendicazioni dei NAR.
La première rivendication a été dei NAR.
Et poi c'è stata smentita la rivendicazione.
La rivendicazione a été démentie.
E poi ci sono state altre rivendicazioni di altri gruppuscoli, sempre fatta la rivendicazione e respinta.
E après il y a eu toute une série de revendications de petits groupuscules d'extrême droite. Et tout le temps, il y avait une revendication et quelques heures ou quelques jours après, elle était démentie.
Sono iniziati comunque i vari depistaggi fatti da parte dei servizi segreti italiani.
Tout de suite, on a commencé à détourner les enquêtes et le détournement était fait par les services secrets italiens.
Che all'epoca avevano tutti i direttori, che erano tutti i servizi segreti, tutta la sicurezza italiana era nelle mani della loggia massonica P2.
I servizi segreti e i servizi di sicurezza dell'epoca, 1980, sono tutti dirigiti dai affiliati della loggia massonica P2.
Ça veut dire que vous pensez qu'il y a une complicité entre les services secrets et les fascistes du NAR?
Certo. Tra l'altro, nell'ambito del processo sono stati condannati.
C'est pas une conviction personnelle. Pour ce massacre ont été condamnés Licio Gelli, qui était donc le maître vénérable de la loge maçonnique P2, il faccendiere, c'est-à-dire l'homme de main, l'homme louche Pazienza, qui était une des liaisons entre Licio Gelli et les services secrets, et entre Licio Gelli aussi et les services secrets non italiens. Et le général Musmeci et le colonel Belmonte, qui étaient à ce moment-là les deux dirigeants, les deux chefs du SISMI, qui était l'un des deux services secrets principaux italiens.
Alors voilà l'analyse que fait Paolo Bolognese, qui est donc le président de l'association des victimes et des survivants de l'attentat de Bologne du 2 août 1980. Quelqu'un qui va nous donner des précisions très compétentes, c'est le plus compétent probablement dans cette affaire, c'est le président de la cour d'assises de Bologne aujourd'hui, juge au tribunal d'application des peines, Libero Mancuso, qui a longuement enquêté et jugé cette affaire. Liberto Mancuso.
Il processo sembrava andare verso la estinzione completa.
La procédure semblait aller vers une extinction complète.
On était prêt à classer l'affaire.
Voilà. Riuscimmo a rimetterla in piedi.
On a réussi à la remettre sur pied.
E arrivammo a identificare.
On est arrivé à identifier les auteurs matériels.
Neofascisti che operavano.
Neofascisti che operaient sul territoire national e in particolare a Rome.
E i loro protettori tradizionali che erano il capo della P2.
Et leur protecteur traditionnel, qui était le chef de la loge maçonnique P2, Licio Gelli.
Gelli era già stato condannato in primo grado.
Licio Gelli avait été déjà condamné à cette époque.
Per avere sovvenzionato la banda armata di neofascisti aretini. strettamente collegato.
Pur aver sovvenzionato la banda armée dei neofascisti de sa région, de Arezzo.
Che praticavano attentati sulla linea tra Firenze e Bologna.
Che aveva praticato des attentats alla bombe sulla linea ferroviaria entre Florence e Bologna.
C'era stata la strage dell'Italicus nel 74.
E aveva il massacre du train Italicus nel 74.
E altri attentati vari, ripeto, sulla linea, su questa linea ferroviaria.
E d'autres attentats alla bombe su questa linea ferroviaria.
C'est une subvention importante.
C'est une subvention importante perché questa banda era protetta dai nostri servizi segreti.
C'est important parce que cette bande était protégée par nos services secrets.
E attualmente il capo di questa banda è latitante Cauchi.
Ancora aujourd'hui le chef de cette bande.
Qui Augusto Cauchi, proprio grazie ai suoi rapporti con il sismi di Firenze.
Augusto Cauchi è ancora in cavale grazie alla protezione e all'aide della section du sismi, c'est-à-dire du service secret militaire de Florence.
Quel était son rôle à lui?
C'était le chef de la bande néofasciste qui mettait les bombes sur la ligne Bologne-Florence. Où est-ce qu'il est en cavale?
È stato latitante in Spagna prima con delle chiaie e poi in Cile.
Il a été d'abord en cavale in Spagna avec un autre néofasciste notoire lié au service secret, Stefano delle Chiaie, e après il a été en cavale au Chili avant de revenir en Espagne pour faire des attentats contre ETA à la solde des services secrets espagnols.
Il a été condamné ici?
È stato condannato, ma molti procedimenti non è stato possibile.
Il a été déjà condamné, mais il a été aussi accusé dans beaucoup d'autres enquêtes qu'on n'a pas porté à terme parce que l'Espagne n'a pas collaboré.
Oui, mais est-ce qu'il est condamné en Italie?
È stato condannato in Italia per banda armata.
Il a été condamné par bande armée.
I neofascisti, terroristi, sono stati costantemente protetti dalla nascita della Repubblica sui servizi di sicurezza.
Les terroristes néofascistes ont été constamment protégés depuis la naissance de la République par nos services de renseignement.
Toujours aujourd'hui?
Ah, je sais pas.
Mais Rosa, d'après vous, qui a fait ça?
Non, non sono dei fascisti. Quella è gente che sapeva dove colpire, erano pagati. Perché quello lì non è stata una strage fascista. Io non ci credo a questo.
Ma ci credo pas che sia un massacro fascista.
Loro volevano fare qualche altra vendetta.
C'è quelque chose d'autre, peut-être avec sûrement des histoires de complot, des vengeances transversales, et peut-être c'était des gens, d'après moi, c'était des gens payés, c'était des professionnels, c'était pas des militants d'extrême droite qui faisaient ça par idéologie, c'était quelqu'un qui était payé, parce qu'il savait trop bien quoi faire.
Voilà le point de vue de Rosa qui tient la buvette du quai numéro 1, et elle n'est pas si loin après tout de l'analyse que fait le juge libéraux Mancuso. Il y a quelque chose derrière les exécuteurs de ce massacre de Bologne. On vient de parler de la loge P2, on vient de parler de Lucio Celli. Qui est cet homme? Quelle est cette fameuse loge P2? On va pour ça à Rome. On va via Veneto à Rome. On entre dans l'hôtel Excelsior, un grand hôtel, un des plus grands hôtels de la via Veneto à Rome. Et là, on a rendez-vous avec Roberto Fabiani, un très grand journaliste qui a publié, lui, un livre en 1973, précisément sur la loge P2.
Qui è Radio Alice.
Roberto Fabiani, tu es journaliste pour l'Expresso?
Oh oui, depuis 28 ans.
Seulement?
Tellement encore, oui.
Là, on est dans un très grand hôtel, un des plus grands hôtels de Rome, qui s'appelle l'hôtel Excelsior.
Oui.
Très luxueux, avec marbre, lustre, grand tapis extraordinaire, un grand palace.
Oui, c'est presque le crayon de Rome.
Et alors là, à l'endroit précis où nous sommes assis, là, dans ces fauteuils assez luxueux, il y a un personnage très important qui est venu s'asseoir ici pendant des années, que tu as bien connu, et qui a joué un rôle majeur dans l'histoire de la péninsule.
Ah oui, alors tu es assis sur le fauteuil d'habitude occupé par un monsieur, un citoyen normal, mais qui a marqué quand même 10 ans de vie italienne. Son nom c'est Licio Gelli. Aujourd'hui il est âgé de 85. Il vit dans sa magnifique villa en Toscane. Et il a marqué la vie publique italienne pour 25 ans quand même. Alors, que faisait ce type-là? C'était le chef d'une loge maçonnique qui s'appelait P2. P signifie propagande. Deux, pour la distinguer d'une autre loge maçonnique très ancienne qui s'appelait tout à fait propagande. Et alors, la deuxième s'appelait propagande 2. Dans cette loge étaient réunis les frères les plus importants de la franc-maçonnerie italienne. Mais le particulier de cette loge, c'est qu'elle réunit ministres, gouverneurs, secrétaires d'État, chefs de l'armée de l'air, de la marine nationale, les chefs de banque, les chefs des entreprises publiques.
Les médias?
Le média, oui, il y avait l'éditeur du Corriere della Sera, qui est le plus grand journal d'Italie, Angelo Rizzoli, une douzaine de journalistes de la RAI, et en plus la diplomatie, les services secrets, la police, quelque chose tout à fait incroyable. Et en plus des entrepreneurs privés, très importants, même le président du conseil actuel, le premier ministre Silvio Berlusconi. Il faut préciser que Silvio Berlusconi est resté dans la peu de temps. Et on n'a pas de document qu'il a eu quelque chose de particulier avec M. Licio Gelli, mais en effet, il était dans les listes de la P2. Licio Gelli, c'est un personnage encore aujourd'hui inconnu, si on veut. Dans sa jeunesse, il était fasciste, et ça ne m'étonne pas. Il est né en 1919. Et donc, en 1940, il a été âgé de 21 ans. Il a combattu en Espagne.
Du côté de Franco?
Bon, bien sûr. volontaire. Et après, il a combattu avec la République sociale italienne, signifie le gouvernement fasciste du nord d'Italie, quand la moitié d'Italie était déjà libérée. Mais après la guerre, il a changé d'avis. Et il est devenu en effet un démocrate chrétien, homme de droite bien sûr. Il a commencé une activité d'entrepreneur dans le secteur textile en Toscane. Mais c'était en effet une couverture. Son travail principal était faire des grandes affaires internationales et surtout, à partir des années 60, 65, si on veut, la P2. Sa créature, qui a eu une extraordinaire importance dans la vie publique, pas seulement italienne, mais je pense aussi internationale. Ce monsieur avait une capacité extraordinaire de pénétrer dans n'importe quelle ambiance et toujours au plus haut niveau. C'est sûr qu'il était ami personnel du président des États-Unis, Jimmy Carter. Il était ami de Juan Perón, de sa femme, la première, Eva, et de la deuxième, Isabelita. Il était ami des militaires argentins qui ont fait le coup d'État et sont restés au pouvoir longtemps. Il était ami du duc de York. Et en plus, il avait des très très grandes bonnes relations avec les services secrets américains, mais aussi avec les services secrets russes. Il était même un agent double qui servait de patron.
Alors, mais qu'est-ce qu'ils faisaient tous ces gens-là? Quel était leur but?
Le but était exercer le véritable pouvoir. Ça signifie qu'on fait une équipe extraordinaire pour s'aider l'un l'autre, pour se couvrir l'un l'autre, pour placer des amis dans le lieu où peuvent être utiles aux amis. Donc, si on regarde bien, c'était un groupe mafieux qui allait bien plus loin que la traditionnelle solidarité de la franc-maçonnerie et qui a vraiment marqué la vie publique. Si on pense que les trois chefs des services secrets venaient ici, prenaient place dans ces fauteuils et parlaient avec lui pour 2 heures, Licio Gelli avait son avis à dire et il faudrait l'écouter, hein. Il exerçait le véritable pouvoir. C'est le pouvoir secret, n'est-ce pas? Et pour lui, c'était une raison de vie.
C'est-à-dire que là où nous sommes assis, dans ces fauteuils, de cet hôtel luxueux de Rome, il y a eu pendant des années un marionnettiste.
Ah oui, oui, oui. A été pour des années le centre de la vie publique inconnue. Et plusieurs ministres ont été créés ici, sur ce fauteuil. Plusieurs généraux, plusieurs chefs de l'armée, des services secrets ont été nommés ici. Et des magistrats. Jamais oublié la magistrature, hein?
Non, non, Roberto, on n'oublie pas la magistrature et on retrouve tout de suite notre magistrat à la gare de Bologne, Libero Mancuso, qui a enquêté, qui a été le juge d'instruction sur l'affaire de la bombe du 2 août 1980 à Bologne et qui, maintenant, nous éclaire sur la loge P2, sur le rôle de la loge P2 dans l'attentat de Bologna.
Uomini della P2 e dei servizi segreti sono stati condannati per avere deviato le indagini di Piazza Fontana.
Les hommes de la P2 et membres des services secrets ont été condamnés pour avoir détourné les enquêtes sur la bombe de Piazza Fontana.
Sono intervenuti per deviare le indagini per l'attentato di cui si è occupato Casson.
Ils ont travaillé pour détourner les enquêtes du massacre de Peteano, celui sur lequel le juge Casson a enquêté.
Hanno impedito l'accertamento delle responsabilità per l'Italicus e per la banda Retina.
Ils ont empêché qu'on arrive à croire l'enquête sur la bombe, sur les trains Italicus et sur toutes les bombes mises par les néofascistes de la région d'Arezzo, celui qui est la région de Licio Gelli, sur la ligne Bologne-Florence.
Il momento della svolta di tutta l'inchiesta,
il momento del tournant dell'enquête,
fu quando accertammo che
le tournant dell'enquête était quand on a certifié, on a vérifié che dell'esplosif qui était retrouvé 5 mois après le massacre de Bologne sur un train qui allait de Taranto, che è dans le sud dell'Italia, a Milan,
era stato collocato da parte di ufficiali, dai vertici dei servizi militari di sicurezza.
Avete laissé sur ce train par les dirigeants des services secrets militaires.
E erano tutti iscritti alla loggia massonica P2 di Licio Gelli.
Siete tous affiliés à la loge maçonnique P2 di Licio Gelli.
E c'era anche Francesco Pazienza, che era stato collocato ai vertici del nostro servizio segreto militare da servizi americani.
Il y avait aussi un monsieur qui s'appelle Francesco Pazienza, qui revient souvent dans ce groupe d'enquête, et qui avait été placé auprès de la dirigeance de nos services de renseignement par les services de renseignement américains.
Viene soprattutto poi dal fatto che riuscimmo ad accertare tutto questo.
Nous on a réussi à établir les faits grâce à la collaboration d'un maréchal des carabiniers qui avait collaboré avec les dirigeants du service secret italien pour détourner l'enquête.
Il a avoué. Sì, ha collaborato nel corso di una notte drammatica in cui lo interrogammo con il collega Sica.
Il a collaboré au cours d'une nuit dramatique où moi et mon collègue giudice Sica on l'a interrogé pendant toute la nuit à propos de ça.
Qu'est-ce qu'il a dit au juste?
Che aveva materialmente preparato questo esplosivo, la cosa grave.
Ce maréchal donc il a admis avoir participé au placement de cet explosif 5 mois après sur les trains
et qui su ordine
c'était lui qui avait matériellement préparé l'explosif et l'avait mis sur les trains sur ordre de la direction des services secrets et la chose qui était vraiment définitivement explosive, si je peux me permettre le jeu de mots, était le fait que cet explosif-là était exactement de la même qualité, de la même nature que celui qui était utilisé 5 mois avant pour faire exploser la bombe à Bologne.
Voilà, alors évidemment, il faut suivre, mais il est évident que cette loge P2 a été derrière toutes ces années, en fait, toutes ces années de terrorisme noir, derrière tous ces attentats, on trouve cette loge P2 et, vous avez compris, dans cette loge P2, on trouve toute une série de personnages haut placés de l'État, tous les grands décideurs, tous les détenteurs de pouvoir, leaders d'opinion, etc., font partie de cette loge P2 et on va voir, si on a le temps aujourd'hui, que cette loge P2 est en liaison avec le système Gladio, c'est-à-dire les services secrets de l'OTAN et des États-Unis. Voilà, voilà contre quoi se battent ces jeunes d'extrême gauche, les groupes extra-parlementaires, et voilà dans quelles conditions, dans quel cadre historique maintenant ont lieu ces attentats et ce qu'on appellera le terrorisme rouge, opposé évidemment à ce terrorisme noir.
Questa bomba, per quello che è possibile ipotizzare.
Cette bombe, c'est une forme de chantage que Lucio Gelli faisait aux gens qu'il avait jusque-là soutenus, qu'il avait fait arriver au sommet de l'État, au sommet des services de renseignement, au sommet des armées militaires. Et c'était sa forme de chantage, c'était sa manière de dire « je ne m'irai pas si facilement, vous ne débarrasserez pas de moi si facilement ». Donc c'était son chantage, c'était sa déclaration de chantage.
Questo, diciamo, l'alleanza con le bande neofasciste avviene sin da subito, attraverso Borghese, Delle Chiaie, Tilger, sono personnages, tutti quanti.
C'était sa manière de faire du chantage, parce qu'il faut se rappeler aussi que c'était vraiment un homme, c'était un agent d'influence très fort pour l'Italie, mais c'était aussi un pilier international d'un réseau qui avait des liens aussi bien avec les néofascistes des bandes armées, mais aussi avec toutes les extrêmes droites institutionnelles aussi, par exemple en Amérique du Sud. Videla, plutôt que Massera, était inscrit dans la loge P2. Et les généraux uruguayens et les généraux argentins ou chiliens étaient inscrits à la P2. Donc, quelque part, c'était quelqu'un qui sûrement ne voulait pas abbandonner la place.
Inscrito alla P2 era Sindona, era Calvi, il Corriere della Sera era nelle sue mani completamente, dagli editori al direttore.
Lucio Gelli était en Italie l'homme dans l'ombre qui dirigeait par moment début des années 70 et le début des années 80, qui a dirigé effectivement le pays. Il contrôle complètement le Corriere della Sera, le principal quotidien italien, de l'éditeur jusqu'au directeur en passant pour le chef rédacteur. Il contrôle tous les services secrets, il nomme lui-même tous les chefs militaires et le chef d'état-major. Ils sont tous passés à ce moment-là pour la P2.
Donc, ils
sont tous impliqués dans des tentatives de coup d'État avortées ou des projets de coup d'État qui ne se sont pas mis à l'œuvre. Mais ils sont tous impliqués. La bombe à Bologne, c'était pour dire à tous ces gens, je ne vais pas m'en aller si facilement.
Ma io lo conosco bene.
Je le connais bien.
Lui è un poeta.
C'est un poète.
Dunque, guardi, se lei conosce Licio Gelli.
Si vous rencontrez Licio Gelli.
Si accorge che. Cioè, uno per essere grande nel male.
Pour être grand dans le mal.
Deve essere grande.
Faut être grand quand même.
Voilà, c'est assez admiratif les propos de Francesco Cossiga. Oui, Francesco Cossiga, ex-président de la République italienne, ex-président du Conseil, ex-ministre de l'Intérieur au moment de l'affaire Aldo Moro, qui aujourd'hui nous parle de Lucio Gelli. Il n'a pas beaucoup de reproches bien graves à lui faire.
Personnellement, je crois que la P2...
Personnellement, je crois que la P2
sia stata una invenzione americana.
Soit un'invention américaine.
Per mettere insieme.
Pour mettre ensemble.
Quando si avvicinavano i due schieramenti Democrazia Cristiana e Partito Comunista.
Pendant che on assistait al rapprochement entre Parti Comunista e Democratie Chrétienne.
Per mettere insieme i quadri.
Pour rassembler les cadres.
Gli altri quadri, civili e militari.
Les autres fonctionnaires civils et militaires.
Più filo-atlantici e filo-americani.
Le plus filo-atlantiste e filo-americani.
Questa è la mia tesi.
Ça c'est mon hypothèse.
La P2 era composta di grandi signori.
La P2 était composée de grands seigneurs.
Tutti di destra o quasi, filo-americani.
Tous filo-américains o de droite.
Non è che loro hanno infiltrato lo Stato. Sono loro che sanno, sono quelli che comandavano già nello Stato che hanno fatto questo club.
C'est pas qu'ils ont infiltré l'État, ils étaient déjà dans l'État, ils ont formé un club entre eux.
Un club ultra-américain.
Un club ultra-américain.
C'est pas très démocratique ça quand même.
Bon,
c'est pas très républicain ça quand même.
Né républicain né démocratique.
Ni républicain ni démocratique. J'en conviens.
Poi dopo io sono corsa fuori, mi sono sdraiata sul giardino che è lì fuori.
Je suis arrivée à sortir, je me suis allongée dans le petit jardin qui est en face de la gare.
Ho telefonato a mia madre, ho detto io sono viva. È scoppiata la bomba in stazione.
E j'ai appelé ma mère pour lui dire je suis vivante et il y a une bombe qui a explosé dans la gare.
Però io sul momento loro avevano detto che era una fuga di gas.
Sur le coup, ils ont commencé à dire que c'était un fuite de gaz.
Non usciva gas. Io ho subito detto è stata una bomba perché c'era puzza di sparo di polvere, capito?
Et,
dopo
et moi,
io
moi j'ai senti tout de suite un odore de poudre très prononcé. E donc ça pouvait pas être du gaz, j'ai tout de suite dit c'est une bombe.
Dopo io cosa ho fatto? Mi sono alzata, sono andata incontro a delle altre persone che conoscevo come per dire io sono viva, non mi sono fatta niente. Però la cosa più schifo che mi ha fatto quando c'erano gli sciacalli.
E la chose qui m'a plus dégoûté c'est de voir les chacals sur les cadavres.
Ho visto un signore che si è infilato una mano di una donna in tasca con tutti gli anelli, mi ha fatto schifo.
E notamment j'ai vu quelqu'un qui a pris la main d'une femme plein de
la main coupée
plein de bagues et qui se l'est mis dans la poche.
Voilà, se l'on se souvient Rosa de ce 2 août 1980, image terrible qui, bon, telle qu'elle s'en souvient, mais ce qu'on sait depuis, c'est la responsabilité derrière ceux qui ont fait l'attentat, c'est-à-dire des militants d'un mouvement d'extrême droite, c'est ceux qui ont commandité, qui ont dirigé, commandé effectivement cet attentat, c'est-à-dire les responsables de la loge P2. Et il faut savoir, Roberto Fabiani, notre ami journaliste, a enquêté, lui, pendant des années, il venait dans cet hôtel Excelsior, parler avec Lucio Gelli, et il voyait ces balais. Ce qui est extraordinaire, c'est à la fois l'opacité de ce pouvoir secret, à quel point tout ça était parfaitement, parfaitement public, une espèce d'opacité transparente. Roberto Fabiani.
Et le siège officiel de la P2, qui était même sur le répertoire téléphonique, avec un nom, bien sûr pas P2, mais Centre d'études sociaux. Le siège était d'habitude vide, il n'y avait personne là. Il travaillait ici, son point de commande était l'hôtel Excelsior. Le grand scandale a éclaté en 1981 à l'occasion d'une perquisition de la brigade financière de l'entreprise de Licio Gelli près d'Arezzo. Quand a été découverte une valise avec des documents et avec la liste des frères qui étaient dans la P2. Il y avait 958 noms qui étaient seulement une partie de membres de la P2, car en effet, les membres de la P2 étaient de 2700.
2700.
Oui. Quand le scandale a éclaté, une grande commission parlementaire a été nommée, composée par 40 députés et sénateurs, Et tout le monde a découvert la PD. Mais c'était un théâtre. Il était de menteur en disant qu'il ne connaissait pas. Au mois d'avril 1981, soudain, le gouvernement a démissionné. L'état-major a démissionné en bloc. Les services secrets sont finis dans la tempête, car les chefs étaient tous dans la PD. Les banques, mais la vie publique a été bouleversée complètement, et ça, ça a duré quand même 5 ans.
C'était donc, ça fonctionnait comme un état dans l'état.
Oh oui, ça fonctionnait exactement. Sur... Un état dans l'état, une administration dans l'administration. Une armée dans l'armée, une police dans la police, un service secret dans le service secret, etc., etc. On peut dire que la crème de la diplomatie, de la finance, de la politique, voulait absolument être amie dans l'APD. Il y avait la queue ici, hein, ici à l'Excelsior, il y avait la queue pour s'inscrire à l'APD. Car ce monsieur avait convaincu tout le monde que le pouvoir de l'APD était énorme. Et peut-être qu'il disait la vérité. Peut-être qu'il disait la vérité.
Est-ce qu'il y avait un projet de prendre le pouvoir de coup d'État?
Non, c'était pas nécessaire faire un coup d'État. Si on continuait sur la même route d'attirer dans l'APD tous les fonctionnaires, les officiers, toutes les structures de l'État, le coup d'État était déjà bien fait, non? Sans besoin de mettre les militaires sur la chaussée, n'est-ce pas?
Est-ce que Lichogeli a été arrêté ou qu'est-ce qu'il est devenu?
Lichogeli a été arrêté en Suisse, sur la demande des autorités italiennes, et il est resté en prison pas trop longtemps, il me semble 3-4 mois, et après a été mis en liberté. Et il a subi un procès ici à Rome, mais il a été acquitté. En effet, sur le plan juridique, il n'existait un crime à lui attribuer. Au procès, il a été acquitté.
Et ensuite, qu'est-ce qu'il est devenu?
Ben, aujourd'hui, il est devenu un vieux homme qui reste en silence. Il ne donne jamais des entretiens, par exemple. Il n'a jamais écrit rien. Il écrit des poésies.
Voilà, on m'a dit ça.
Oh, oui. Il écrit des poésies. Il semble qu'il ne soit pas mal.
En ah plus. Bon?
Non, oui. Et il est là. Bon, maintenant, il est âgé de 85. C'est un vieux homme, maintenant.
Poète et marionnettiste, une manipulation étonnante pendant des années et des années. Donc, cette loge P2 avec Lucio Celli au milieu a manipulé tout ce pays, le terrorisme noir, comme en partie, et là c'est tout un autre volet qui s'ouvre, comme en partie, probablement, possiblement, là, le terrorisme rouge. Mais là, ça nous ouvre d'autres recherches, d'autres questions. Une réponse en tout cas pour clore aujourd'hui cette étape de notre enquête, c'est Paolo Bolognesi, parce que qui est président de l'association des victimes et des survivants de cet attentat, de l'attentat de d'août 1980 à la gare de Bologne. Parce qu'évidemment, on a envie de savoir si c'est vraiment un chapitre à jamais clos, qui est un objet d'histoire avec tout un tas d'enseignements possibles, ou s'il y a une continuité avec aujourd'hui.
Cioè, voi dovete tenere presente che tutte le questioni legate alla loggia massonica P2 sono di un'attualità evidente.
Il faut avoir en tête que toutes les histoires liées à la loge massonique P2 ont encore une actualité évidente.
Evidente perché la loggia massonica P2 aveva un progetto politico che era il piano di rinascita democratica.
Parce que la loge massonique P2 avait un projet politique qui s'appelait le plan de renaissance démocratique.
che si sta attuando con questo governo.
Che è in train de se mettre en place avec ce gouvernement aujourd'hui.
Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è un iscritto alla loggia massonica P2.
C'est pas un hasard, le président du Conseil d'aujourd'hui, Silvio Berlusconi, c'est un affilié de la loge massonique P2, et dans son entourage, dans son cabinet, et parmi ses collaborateurs, il s'est entouré d'anciens de la loge massonique P2, ou alors des sympathisants de la loge massonique P2.
Dovete tenere presente questo, che è come vedere un iceberg, no? E la punta è la strage.
Faut toujours penser un peu à voir en face un iceberg. La partie émergée, c'est les massacres, mais la partie qu'on ne voit pas est beaucoup plus, va beaucoup plus profondément que la partie qu'on voit. Et ici, et ça c'est vrai pour tous les massacres en Italie, pour ce qui est de Bologne, c'est sûrement le massacre où on est allé le plus loin dans la découverte de la vérité, même si on n'a pas encore toute la vérité, même si on ne sait pas tout. Mais je pense effectivement qu'ici, on a commencé à dévoiler une partie importante de l'iceberg.
Mais vous ne pourrez pas aller plus loin.
L'importante è mantenere la memoria.
L'importanza di garder la memoria, di preservare la memoria. Se uno garde e non preserva la memoria, allora on pourra continuare a inquiétare e peut-être qu'un jour on aura tutta la giustizia, tutta la verità. Se on perd la memoria, se on oublie, évidemment on n'aura più ni giustizia né verità.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza. Fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanto.
Merci a tous, merci a Libero Mancuso, a Rosa, a Paolo Bolognesi, a Roberto Fabiani, a Francesco Cossiga. Demain, on en rencontrera le juge Felice Casson. Bref interview, bref entretien sur Gladio, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Technique aujourd'hui, Pascal Baldassari et Jérôme Pavard, Koyen Guyen, Yann Chouquet, Guy Vantil, Thierry Scharf, Claire Otter, Francesco Giorgini, Christophe Imbert et Pascal E. Pascariello. C'est l'équipe de là-bas si j'y suis, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.